Gao et à Ouagadougou, 22h à Cotonou. Bienvenue dans Salle Plus, présentée par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Salle Plus. Au Bénin, le président suscite la polémique après avoir dénoncé la cherté des élections. Notre dossier sera consacré aux violences dont sont victimes les enfants africains. Au Burkina Faso, le président a ouvert des discussions avec l'opposition qui refuse toute modification de la Constitution.
La position de l'opposition est restée toujours la même. Nous sommes fermement opposés à toute révision de la Constitution.
Enfin, au Mali, pour aider à la reconstruction, le gouvernement a donné des véhicules au cercle de Mopti. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce microphone. Le président américain Barack Obama a tiré la sonnette d'alarme sur l'Ebola et a appelé toutes les nations à faire plus pour lutter contre l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Le chef de l'exécutif américain a qualifié la maladie de menace à la sécurité régionale et internationale. Plusieurs chefs d'État ont participé à la réunion de haut niveau sur l'Ebola à l'ONU. En plus du président Barack Obama, il y avait le président de la Guinée, Alpha Condé, et via téléconférence, la présidente du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, et le président de la Sierra Leone, Ernest Bai Koroma. Écoutons un extrait de la déclaration du président Condé, dont le pays est l'un des plus touchés par l'épidémie.
Mon gouvernement a vivement accueilli l'adoption unanime de la résolution A62L2 à l'initiative de notre secrétaire général et qui autorise le déploiement de la mission des Nations Unies pour l'urgence contre l'Ebola. Nous ne bossons ces efforts louables. Des besoins pressants s'imposent dans un pays pour davantage impulser leur action dans la mesure de cette effroyable maladie aux conséquences économiques, sociales et humanitaires qui impactent négativement sur la croissance, l'arrêt de l'épidémie, le relèvement pour répondre à l'impact et le renforcement des infrastructures et des systèmes de santé des trois États s'avère indispensable. Il en va de même du personnel sanitaire dont l'accroissement, la disponibilité et la compétence demeure garant du succès de notre lutte commune.
Alpha Condé, président de la Guinée, l'armée nigériane a annoncé avoir tué Bashir Mohamed, un leader de Boko Haram, vendredi dernier dans des combats à Kanduga dans l'état de Borno. Les autorités camerounaises ont publié hier une photo de l'homme qui se faisait passer pour Aboubakar Shekau, leader du groupe islamiste. Shekau et Bashir se ressemblent physiquement, le point avec notre correspondant à Lagos, Ali Kabré.
Il s'agit de Bashir Mohamed, et on l'appelle aussi Abacha Abdoulaye Guedam, souvent on l'appelle aussi Damasak. Il se faisait passer pour Aboubakar Shekau, le vrai Aboubakar Shekau. Il a été tué il y a un an, c'est ce que le responsable de l'armée nous apprend, parce que une première, en tout cas officiellement, l'armée se prononce sur l'élimination des leaders de Boko Haram. Comme Aboubakar Shekau avait été tué et que Bashir Mohamed avait repris l'identité d'Aboubakar Shekau, puisque c'est un sosie, maintenant que l'armée a tué Bashir Mohamed et qu'on l'a identifié comme celui qui portait le nom de Aboubakar Shekau, en ce moment, tout a été clair maintenant pour l'armée. Il était donc difficile pour l'armée de convaincre en fait l'opinion qu'effectivement ils ont tué Aboubakar Shekau. Cette mort maintenant de Bashir Mohamed a été confirmée par les villageois qui l'ont identifié. Donc maintenant, il n'y a plus de doute.
Nigeria toujours, la police a affirmé aujourd'hui que quelques-unes des 200 lycéennes enlevées en avril par le groupe islamiste avaient été libérées. La jeune fille, une fille donc, âgée de 20 ans, a été déposée hier par des combattants présumés de Boko Haram à Moubi dans l'état d'Adamawa, dans le nord-est du pays. Mais un des responsables chrétiens de la ville de Chibok, où les lycéennes avaient été kidnappées, a assuré la police que la police a fait une erreur.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Annonce surprise ce jeudi de la démission du ministre de la Justice des États-Unis. Eric Holder devrait en dire plus ce soir depuis la Maison-Blanche. Il était en poste depuis l'arrivée de Barack Obama au pouvoir en 2009. L'information a été donnée par le département de la justice dans un communiqué. Ce départ d'un proche du président est tout un symbole puisque Eric Holder a été le premier Africain-Américain à occuper ce poste clé de l'administration américaine. Et les frappes aériennes de la coalition contre les installations pétrolières de l'État islamique dans le nord-est de la Syrie ont fait 19 morts. C'est ce que rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé à Londres. 13 frappes ont été ont été rapportées, menées par les États-Unis, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Selon une source militaire américaine, elles visaient des raffineries mobiles qui rapportent environ 2 millions de dollars par jour aux djihadistes. La suite de Sahel Plus, Claire Morin-Gibault.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus sur la Voie de l'Amérique. Nous ouvrons l'émission par le Bénin où le président a suscité la polémique après avoir dénoncé la cherté des élections. Qu'ils soient citoyens, membres de la société civile ou de la classe politique, les Béninois sont sceptiques et se demandent s'il ne s'agit pas d'un prétexte pour justement ne pas organiser d'élections. L'éclairage de notre correspondant à Cotonou, Peggy Ludovic Dagba.
Le président de la République du Bénin n'est plus d'accord avec ce que coûte l'organisation des élections dans son pays. 5 milliards de francs CFA y sont engloutis depuis qu'il a pris les rênes du pays en 2006 et il appelle à une concertation nationale pour en parler. Cette déclaration faite le week-end écoulé par le numéro 1 béninois au nord du pays suscite un débat houleux depuis lors. Chez les opposants, c'est ce qui était soupçonné de longue date qui vient d'être confirmé. Samou Adambi, ancien député G13 à l'Assemblée nationale, et David Dansou, membre de l'Union fait la nation, le regroupement des partis politiques de l'opposition au Bénin.
Les déclarations faites auparavant et celles qu'il vient de faire tout récemment dans le Borgou ne concordent pas du tout. En ce sens que nous avons déjà les élections communales, municipales et locales en retard et qu'il faille qu'on les organise maintenant. Et le COSLEPI en train de faire un travail est bloqué pour raison de financement. Je ne vois pas l'opportunité d'une telle déclaration aujourd'hui. Le deuxième volet, c'est par rapport à la cherté des élections. C'est vrai, de 2006 à nos jours, il a estimé que ça fait à peu près 100 milliards. La LEPI qui nous a conduit aux élections de 2011, 45 milliards sont partis dedans. Donc pour toutes les autres élections organisées, on se rend compte donc ont coûté environ 55 milliards. J'estime que ce n'est pas trop pour ce qui représente le socle de notre démocratie.
Il a juste dévoilé son plan parce qu'il ne savait pas que l'opposition avait à même analysé ce plan secret machiavélique qui s'opérait dans l'ombre, que c'était la panique, il faudrait qu'il sorte de son silence et venir abrutir encore le peuple. Non, 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 nous disons non, nous ne pouvons pas accepter cette comédie-là.
Clotaire Oliyide, membre de la société civile béninoise, pense pour sa part qu'il faut maintenant des manifestations publiques pour empêcher le chef de l'État d'arriver à se maintenir au pouvoir par des subterfuges.
Aujourd'hui, la seule chose qui reste, c'est que les citoyens se mobilisent pour passer à des manifestations publiques pour contraindre nos institutions à revenir sur leur position. Parce que toutes les institutions aujourd'hui semblent être acquises au chef de l'État. Aucune de ces institutions ne fait rien pour nous sortir de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons.
Le député Bida Youssouf, membre de la mouvance présidentielle, balayera tout ceci du revers de la main. Pour lui, il y a un problème fondamental qu'il faut régler et Boni Yayi n'a fait que dire la vérité.
Comment est-ce qu'on peut corriger la LEPI avec 13 milliards? Ils ont dans un premier temps demandé 13 milliards. Avec les discussions, ils se sont retrouvés à 9 milliards. À la date d'aujourd'hui, ils ont reçu 6 milliards 5. Sur plus de 10 étapes, nous sommes à une seule étape. C'est Yayi Boni qui organise le processus de la correction de la LEPI? Je ne pense pas. Donc je pense qu'il y a un problème politique fondamental dont il faut chercher la source.
Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, pour la Voix de l'Amérique.
Notre dossier est consacré à la violence dont sont victimes les enfants africains. Selon un nouveau rapport de l'African Child Policy Forum, les enfants africains sont confrontés à des niveaux anormalement élevés de violence. L'étude appelle à une action mieux coordonnée pour prévenir ces violences. Michel Joseph.
Le document précise que les enfants africains sont soumis à des niveaux extrêmement élevés de violences psychologiques, physiques et sexuelles. Une tragédie que les lois et les politiques actuellement en vigueur n'ont pas été en mesure de résoudre. Théophane Nikiema, directeur de l'African Child Policy Forum, évoque la nécessité d'une nouvelle approche.
There has not been a lot of focus on the prevention side. En ce qui concerne la protection de l'enfant, on a guère mis l'accent sur la prévention. Et c'est pourquoi nous préconisons aux États de renforcer cette approche qui prévoit qu'on se focalise sur la prévention, la prise de mesures de prévention, mais aussi une réponse coordonnée en matière de protection. Et cette réponse coordonnée inclut l'État, les familles et toutes les parties prenantes.
Le rapport combine 75 études et enquêtes menées en Éthiopie, au Kenya, au Malawi, au Mali, au Maroc, en Ouganda, en Zambie et au Zimbabwe. Il montre que dans certains pays, comme le Mali et la Zambie, la plupart des actes de violence contre les enfants viennent de membres de leur famille. Mais dans d'autres pays, comme le Togo et la Sierra Leone, la plupart des violences physiques sont infligées par des professeurs et camarades de classe. La violence sexuelle contre les filles est particulièrement élevée presque partout, poursuit le document, à la maison, dans la communauté au sens large et dans les écoles. Dans les zones de conflit, les filles sont encore plus vulnérables à ces violences, dont les viols. À nouveau, M. Nikiema.
Parmi ces violences, le tourisme sexuel qui se fait de différentes façons, à travers l'Internet et autres méthodes. Il est nécessaire que les gouvernements fassent davantage attention aux abus sexuels et à l'exploitation sexuelle, ou même au fait que les enfants sont victimes de la traite à l'étranger à des fins sexuelles.
Parmi les pays où les enfants sont particulièrement ciblés par les prédateurs sexuels, le Kenya, le Sénégal, le Maroc et l'Afrique du Sud. L'étude qui a été réalisée en coopération avec l'Union africaine a été présentée vendredi à la commission de l'Union africaine qui a été invitée à renforcer les politiques mettant l'accent sur la prévention de la violence contre les enfants africains.
Vous êtes bien à l'écoute de CEL Plus sur la Voix de l'Amérique, 99 FM à Abidjan. Direction le Burkina Faso maintenant pour trouver une solution à la crise sociopolitique qui divise le Burkina. Blaise Compaoré a proposé à la majorité et à l'opposition un dialogue direct. Reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo.
Depuis l'annonce la semaine dernière des rencontres entre Blaise Compaoré, sa majorité et l'opposition, les Burkinabés sont restés suspendus à cette date du mardi 23 septembre en se perdant en conjectures. Que va déclarer Blaise Compaoré ? Telle était la question. Eh bien, le suspense est levé. Suivant Assimi Kouanda, le secrétaire exécutif du parti de Blaise Compaoré.
Nous avons répondu à l'invitation de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, qui a convié les grands regroupements au niveau du champ politique national à une initiative, proposer une initiative de cadre d'échange de concertation entre les formations politiques. Et nous avons naturellement salué cette idée et ce cadre proposé parce que nos formations de la majorité, nous avons toujours été disponibles et ouverts pour le dialogue.
L'opposition est partante pour le cadre de dialogue, mais tout est négociable sauf la modification de la Constitution en son article 37 et la mise en place du Sénat. Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition, le dit. On écoute.
Sur le principe, fidèle à notre manière de faire la politique et aux valeurs auxquelles nous croyons, l'opposition ne refuse pas de rencontrer la majorité pour un échange. D'autant plus que s'il y a des questions que l'on peut résoudre pour que notre pays aille de l'avant, ce serait une bonne occasion. C'est l'occasion pour nous aussi de toujours dire et redire nos positions sur les points qui divisent actuellement le pays, à savoir la question du Sénat et de la révision de l'article 37. La position de l'opposition est restée toujours la même. Nous sommes fermement opposés à toute révision de la Constitution qui ferait sauter le verrou de la limitation du mandat. Et nous sommes fermement toujours opposés à la mise en place d'un Sénat.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, la voix de l'Amérique.
Ouagadougou, vous nous écoutez sur le 102.4 FM. Nous terminons l'émission par le Mali où, dans le cadre du programme d'urgence de reconstruction et de réhabilitation des régions nord du pays, le gouvernement a doté les cercles des régions de Mopti en voitures et motos. Un don apprécié car les déplacés continuent de rentrer petit à petit dans leur localité d'origine. Avant le don de ces moyens de locomotion, le gouvernement avait refait aussi des bâtiments publics et des infrastructures sociaux de base dans la même région. Ce sont des populations du cercle de Yuwaru qui ont reçu une voiture et deux motos de la part du gouvernement. À ces engins viendront s'ajouter des équipements et matériels pour l'administration du cercle. La correspondance de Kassim Traoré.
En plus de la réhabilitation et de la reconstruction des bâtiments administratifs, le gouvernement malien est en train de travailler pour faciliter le retour des populations. C'est pourquoi le gouvernement a remis 10 véhicules tout-terrain et 34 motos au gouverneur de la région de Mopti, Kamankane.
Notre joie est immense. Voilà des moyens qui viennent au bon moment. Dans peu de temps, l'administration doit relever beaucoup de défis parce que beaucoup de déchéances nous attendent. Dans quelques mois, c'est le REVEC, notamment à partir du 1er octobre. Mais aussi après, conformément aux instructions du ministre, suivra le renouvellement des conseils de village et certainement après les élections communales. Tout cela demande des moyens de déplacement et même les dotations des préfets sont aujourd'hui vieillissantes. C'est dit que ces moyens viennent vraiment à temps opportun et que nous les utiliserons à bon escient.
Ces voitures et motos sont destinées aux préfets, sous-préfets des cercles de Mopti. Les bénéficiaires se réjouissent de ces gestes gouvernementaux.
Il faudrait maintenant qu'on fasse bon usage des infrastructures qui ont été réalisées, des équipements qui ont été reçus et des moyens logistiques pour dire définitivement que ce programme vraiment, il fallait vraiment le mettre en œuvre.
De temps en temps, que les ministres de la République viennent nous voir au niveau de la région et qu'on échange, cela va créer une certaine dynamique en matière de développement. Parce qu'on va toujours se sentir concerné, on va toujours se sentir intéressé quand on a nos responsables nationaux qui viennent nous voir.
Chekna Amadi Seydi Diawara, ministre de la Planification, de l'Aménagement du Territoire et de la Population.
Mopti représente une infime partie de ce budget parce qu'il a été moins touché que d'autres, heureusement, par la crise que nous avons connue. Mais c'est symbolique. La preuve qu'aucune administration n'est oubliée, que ce soit dans les zones du Nord ou dans les régions du Nord ou en dehors des régions du Nord. C'est un programme qui concerne une volonté de l'État, du président de la République en particulier, et du gouvernement d'accompagner le retour de l'administration, l'efficacité de l'administration, la représentativité de l'administration et la qualité des services délivrés aux populations dans toutes les régions, dans toutes les localités du Mali.
Ces dons du gouvernement malien s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence des régions nord du Mali qui vise la reconstruction et la réhabilitation avec l'aide des partenaires de l'État malien. L'objectif est de reconstruire et de réhabiliter tous les bâtiments détruits au moment de l'occupation djihadiste. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Au montage, Lionel Gaïma. À la technique, Glenn Van Calio. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec l'orchestre Tal National du Niger et le morceau Wangare. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur la Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée et bonne nuit à tous.